utile de l'accessibilité à la vie culturelle rennaise, un reportage présenté par Canal B. Bonjour, c'est Emma, vous êtes sur Canal B et bienvenue dans cette série de reportages intitulée « L'accessibilité culturelle, une volonté rennaise ». À l'occasion des 20 ans de la loi Handicap, j'ai souhaité faire un état des lieux de l'accessibilité à la vie culturelle rennaise en allant chercher les voix de la municipalité, de structures culturelles ou encore d'associations et collectifs. Le premier épisode portait sur la ville et son dialogue avec les structures culturelles. Aujourd'hui, vous allez réentendre les voix de Julie Hague du TNB et celle de Margot Dory de l'association Clair Obscur et découvrir celle de Georgette Péniguel du collectif Handicap 35. Place donc à notre deuxième épisode, témoignages, outils et dispositifs.
Bonjour, donc je suis Georgette Péniguel, donc je suis déficiente visuelle. Je suis très malvoyante, presque aveugle on va dire. Je suis atteinte d'une maladie génétique de la rétine qui fait effectivement perdre la vue progressivement. J'ai été malvoyante quand j'étais plus jeune, on va dire une bonne malvoyante. J'ai vu les couleurs, j'ai vu les formes, donc ce qui me donne quand même pas mal de clés pour différentes visites, on va dire. Alors le collectif Handicap 35 existe depuis 2000. C'est un collectif qui regroupe une cinquantaine d'associations, tout handicap confondu, que ce soit le handicap moteur, sensoriel, cognitif, intellectuel, donc toutes les familles de handicap sont représentées. Différents groupes de travail composent ce collectif. Il y a un gros groupe qu'on appelle un groupe accessibilité, il y a les groupes accès aux soins, il y a des personnes qui siègent à la commission des droits et de l'autonomie à la MDPH. Donc un très grosse structure qui intervient sur beaucoup de domaines. Et ces interlocuteurs sont principalement les collectivités locales.
Et donc votre rôle au sein de ce collectif ?
Alors moi, mon rôle au sein du collectif, je fais partie donc du groupe de travail qui se nomme « Accès à la culture, aux loisirs et au sport ». Donc c'est de développer effectivement, de contacter les différentes structures pour que les visites soient accessibles à tout le monde.
Et donc je vais vous demander de détailler un petit peu plus autour de ce terme d'accessibilité. Qu'est-ce que vous entendez précisément par ce terme ?
Alors, l'accessibilité, c'est large. On va commencer déjà par le bâti. On est au Musée des Beaux-Arts. Il y a 15-20 ans, on a bataillé pour que le musée soit accessible aux personnes en fauteuil. L'architecte des bâtiments de France de l'époque ne voulait pas que ce soit aménagé parce que ça allait soi-disant défigurer le bâtiment. Donc là, ça a été une des batailles. Donc déjà, c'est l'accessibilité au cadre bâti. Après, il y a ce qu'on appelle l'accessibilité à l'œuvre. Donc effectivement, que ce soit au musée ou dans différentes structures, il y a des adaptations qui sont faites pour les différents types de handicaps. Ça peut être des visites descriptives, tactiles, les visites en LSF, les programmes en facile à lire et à comprendre. Donc tous ces dispositifs qui sont mis en place pour favoriser l'accessibilité au plus grand nombre. C'est aussi l'information, les sites internet qui doivent être aussi accessibles pour pouvoir trouver l'information facilement. Et ça, actuellement, je crois que c'est 3% des sites internet qui sont vraiment accessibles.
Quel est votre point de vue sur l'accessibilité culturelle à Rennes ? Vous pouvez nous faire un panorama des dispositifs mis en place de ce point de vue-là ?
Alors, il y a beaucoup de choses à Rennes. C'est vrai qu'on peut quand même profiter de pas mal de spectacles. Alors, il y a le TNB ou l'Opéra où il y a des spectacles en audiodescription et soit en LSF, soit en des versions où effectivement que les personnes sourdes et malentendantes peuvent y avoir accès. Il y a les transmusicales qui ont mis en place depuis un an ce qu'on appelle les souffleurs d'images, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui nous accompagnent à des concerts et qui nous décrivent ce qui se passe sur scène, voilà, des choses comme ça. Il y a les gilets vibrants que les différents festivals empruntent à la DG Culture de Rennes Métropole, parce qu'il faut savoir que la DG Culture de Rennes Métropole a plusieurs matériels pour justement que les festivals, les structures empruntent. Je vous parle des gilets vibrants, je vous parle des boucles magnétiques, des différentes choses pour que ce soit accessible au plus grand nombre, quoi. Parce qu'on sait que les matériels, les équipements sont chers. Donc là, c'est mutualisé entre les différentes structures. Je suis allée au transmusical. Alors, je vais beaucoup au cinéma. Puis qu'il y a l'audiodescription et que certains cinés proposent des films en audiodescription. Donc, j'y vais beaucoup.
dans le cadre de travelling par exemple, est-ce que vous avez...
Alors, il y a des films qui sont accessibles, là je ne suis pas allée dans le travelling. J'y vais beaucoup, alors faire un petit peu de pub, ce sont des cinémas associatifs qui sont les cinémas de Béton et de Cesson, qui proposent effectivement des films en audiodescription et qui nous envoient la programmation. Parce que ça c'est toujours aussi le même problème, c'est d'avoir accès à l'information. Surtout les personnes déficientes visuelles où on ne va pas aller forcément chercher sur les sites, être à l'affût de ce qui se passe quoi.
Vous écoutez Canal B en FM en Ille-et-Vilaine sur 94 et partout dans le monde sur canalb.fr. J'ai demandé à Julie Hague d'expliquer en quoi consistait concrètement son travail à l'accessibilité au sein du TNB.
Alors ça recouvre évidemment plein de tâches très différentes. Pour vous donner un exemple, en ce moment, donc on est au mois d'avril, on est en train de travailler à la saison prochaine, à la saison 25-26. Donc on vient tout juste de prendre connaissance de la liste des spectacles qui seront programmés. De mon côté, j'essaye de voir les spectacles sur lesquels on peut mener des actions un peu spécifiques. Donc par exemple, ça peut être programmer une audiodescription pour des personnes aveugles ou malvoyantes, demander aux compagnies si elles seraient d'accord pour inclure dans leur processus de création et de répétition un interprète en LSF en langue des signes française au plateau, organiser des séances relax. Pour des personnes avec des difficultés de mobilité, on a... pas nécessairement de matériel à mettre à disposition parce que les salles sont accessibles. Donc ça fait l'objet de travaux au début des années 2000. On a installé des ascenseurs à peu près partout et donc aujourd'hui les quatre salles du TNB sont accessibles à des personnes qui viendraient en fauteuil. On a mis en place depuis l'an dernier en plus des sièges pour des personnes à mobilité réduite qui seraient pas forcément en fauteuil mais qui pourraient être en béquille, en canne, qui simplement auraient des difficultés à monter les marches. Et donc ça fonctionne un peu sur le même principe que les bus, donc c'est des places lambda dont l'utilisation est prioritaire pour des personnes qui en auraient le besoin, mais qui peuvent aussi être occupées par du tout public. Ça fonctionne vraiment sur le civisme des spectateurs entre eux. Ensuite, pour les personnes qui auraient un handicap sensoriel, on utilise beaucoup des boîtiers qui, branchés sur un casque, permettent d'accéder à des audiodescriptions, permettent éventuellement d'amplifier le son de la salle pour des personnes qui auraient plutôt des difficultés d'audition, qu'on peut aussi brancher sur des sub-packs. Des sub-packs, c'est des gilets vibrants qui permettent de faire ressentir les vibrations d'un spectacle. Donc, par exemple, sur des spectacles de musique ou de danse extrêmement rythmés, ça permet d'apporter une information supplémentaire à des personnes qui seraient sourde. Et on est en train de constituer pour la saison prochaine un sac sensoriel avec plutôt des objets anti-stress, des casques anti-bruit, des documents en FALC, en facile à lire et à comprendre, pour des personnes qui auraient plutôt des troubles autistiques.
Est-ce que vous êtes en collaboration avec des collectifs ou des associations ? Je pense notamment à Culture Relax.
Alors oui, c'est vrai qu'on a développé depuis 2 ans maintenant, ça va être la 3e année la saison prochaine, un partenariat avec l'association Culture Relax. Alors pour repréciser un petit peu l'objet de ce partenariat, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de choses qui étaient pensées pour des personnes qui avaient un handicap moteur ou sensoriel dans les lieux culturels en termes de dispositifs, mais assez peu pour des personnes qui auraient un handicap intellectuel ou en tout cas un handicap qui les amènerait à avoir des réactions intempestives ou atypiques. Alors même que on avait des liens avec des structures qui accompagnaient ce type de personnes, qu'on sentait qu'il y avait un besoin et qu'il y avait aussi une forme de peur de la part de ces publics justement d'arriver dans un contexte où ils vivraient une expérience vraiment déplaisante de spectacle, de se sentir coincé dans une salle avec par exemple un enfant qui ferait une crise ou autre et qu'il faudrait amener à sortir. Donc on s'est un peu renseigné sur la manière de mieux accompagner ce type de public. Nous, on est des professionnels de la culture au théâtre, on n'est pas des professionnels du handicap, donc évidemment on a senti le besoin aussi de se reposer sur l'expertise de personnes qui avaient plus l'habitude, et c'est comme ça qu'on a découvert Culture Relax, qui propose justement un protocole d'accueil qui vise à rendre beaucoup plus facile justement la venue en salle des personnes avec un trouble du développement. en ayant un accueil qui est renforcé, qui est individualisé, en négociant aussi avec les artistes la possibilité d'entrer et sortir n'importe quand en salle, éventuellement d'ajuster la proposition artistique, même si ça c'est pas un point crucial. Donc de créer un cadre qui soit extrêmement sécurisant, où on dit aux personnes que on peut pas leur garantir forcément que peut-être elles verront toute la représentation, mais que en tout cas elles pourront essayer, que du côté du public des artistes ça posera aucun souci. Et donc de permettre comme ça des premières fois, des premières venues, en essayant de d'anticiper tous les points qui pourraient poser problème, donc en fournissant du matériel, des casques anti-bruit par exemple, des objets anti-stress, en travaillant sur le parcours au sein du TNB pour éviter les temps où il y aurait beaucoup de foule, où il y aurait beaucoup de bruit, et donc en contrôlant vraiment tous les points qui pourraient être des difficultés pour ces personnes qui, de nouveau, viennent effectivement souvent pour la première fois.
Pause musicale sur Canal B, on écoute Malabar de Ichon.
Je vais faire un tour, je vais rentrer tard. Je sais pas où je vais, on va voir. J'ai trop touché, j'ai la rage. Depuis l'époque des Malabar, je paye une fille pour me réparer. Elle a aucune idée de mon état. Retour à la case départ. On s'est pas croisé par hasard. J'te préférais moins bavard. Je les écoute pas tes salades. Laisse-moi m'oublier, laisse-moi boire.
Malabar de Ichon, vous êtes toujours sur Canal B dans Témoignages, outils et dispositifs, deuxième épisode de notre série de reportages consacrée à l'accessibilité culturelle.
Il faut savoir aussi que depuis 2020, tous les films qui ont l'agrément de production du CNC ont donc l'obligation de disposer de versions audio-décrites, d'une version audio-décrite et d'une version sous-titrée. Pas seulement pour
J'ai demandé à Margot Dory de l'association Clair Obscur de nous parler des enjeux d'accessibilité et en particulier d'audio-description lors du festival Travelling.
Ce qu'on va rencontrer en termes de difficultés, ça va plutôt être l'accès à des œuvres accessibles, donc c'est-à-dire des œuvres qui vont bénéficier de versions audio-décrites ou bien de sous-titrage pour sourds et malentendants. Mais on a parfois des difficultés à mettre la main sur ces versions où c'est tout simplement des films qui ne sont pas disponibles en version accessible, puisque c'est désormais une obligation légale concernant la production de films français. Travelling travaille notamment sur des cinématographies étrangères. Donc là, on a des difficultés à trouver effectivement des versions accessibles. On est adhérent depuis de nombreuses années au collectif des festivals, donc ils nous accompagnent sur la mise en accessibilité de nos événements. Ils mettent d'ailleurs également à disposition du matériel si besoin, des fiches ressources, également leur expertise et leurs conseils. On leur emprunte du matériel effectivement tous les ans également. Concernant nos propositions accessibles, Zanzan Film est également d'un très grand soutien, dont je l'évoquais, et ce depuis 2020. Et ils nous accompagnent donc sur la mise en accessibilité du festival. Voilà, ils nous apportent également leur regard, un relais de communication, des conseils, et également un soutien matériel et aussi financier. Ils nous accompagnent par exemple sur la vidéo de présentation du festival. C'est une vidéo de présentation de toutes les séances accessibles avec un interprète en langue des signes française, un sous-titrage, une voix off, des illustrations, des pictogrammes, etc. Et aussi pour la mise en relation avec des interprètes en langue des signes.
La 36e édition prévoyait une table ronde intitulée « Droits culturels et handicap, on s'y met ». En quoi est-ce important pour vous et l'édition du festival de sensibiliser autour de l'accessibilité ? Quels tabous et préjugés doit-on lever ?
Alors effectivement, l'accessibilité à la culture et au cinéma pour toutes et tous, c'est vraiment très important pour nous d'y prêter attention et de chaque année améliorer nos propositions accessibles et inclusives, que ce soit en termes de séances accessibles en audio description et sous-titrage SME, également de temps de sensibilisation. Et cette année, on a effectivement eu le plaisir d'organiser avec Zanzan Film et Film en Bretagne le troisième volet donc d'une série de rencontres qui s'intitule « Culture, handicap et droits culturels, on s'y met ». Donc il s'agissait d'une table ronde qui partait de l'exemple du court-métrage de Pablo Léridon « Les petits monstres », qui est exemplaire en bien des points sur la question de la prise en compte dès la production des versions audio-décrites et sous-titrées pour sourds et malentendants. Donc les différents intervenants à cette table ronde ont été invités à partir de cet exemple des petits monstres à échanger autour des enjeux de l'audio-description et du sous-titrage qui ont été réalisés pour le film. Et également, dans un second temps, ils ont exploré la question des représentations et notamment celle de l'écriture et de l'incarnation des personnages en situation de handicap. L'enjeu, effectivement, c'est de dépasser un peu les stéréotypes et d'ouvrir le champ des possibles pour les acteurs et actrices en situation de handicap. Et voilà, et d'évoquer quelles étaient les opportunités et encore les contraintes que pouvaient rencontrer les artistes en situation de handicap dans le milieu professionnel audiovisuel.
Il y avait notamment une intervenante dont c'était le métier de travailler sur l'audiodescription et qui décortiquait pour un public non averti le rôle et la place que doit prendre l'audiodescription.
Oui, effectivement, il s'agit de Marie Diagne de l'association Le Cinéma Parle qui a donc réalisé les versions audio-décrites très réussies de beaucoup d'œuvres. Et là, effectivement, c'est elle qui a travaillé sur Les Petits Monstres. Et effectivement, elle a très bien expliqué dans cette table ronde les enjeux de l'audio-description qui doit à la fois décrire, mais respecter aussi l'espace du spectateur, ne pas trop en dire, comprendre les subtilités de la mise en scène et de l'histoire. Enfin, voilà, il y a un vrai travail d'analyse et de création qui sous-tend le travail, je pense, de l'audio-description. Et voilà, elle a très bien expliqué à l'occasion de cette table ronde qui est d'ailleurs disponible dans son intégralité sur le YouTube de Zanzan Film et sur le site internet de Clair Obscur également. Voilà, n'hésitez pas, c'est 2 heures d'échange vraiment très intéressant sur tous ces sujets-là.
Et ce qui compte, c'est beaucoup plus de trouver à quel endroit on va installer une description, combien de secondes on laisse après la dernière prise de parole, parce qu'on pense rythme, on pense cadence, on pense respiration.
L'opéra, le 2 mars, il y a la Traviata en audio description. Voilà.
Vous y serez ?
Oui.
Georgette Péniguel sur son rapport à l'audiodescription.
Mais il y a des personnes en situation de handicap se sont mises des freins aussi. Moi, j'ai toujours eu une pratique culturelle. J'ai toujours été malvoyante. Je suis beaucoup allée au musée à Paris, à des spectacles. Moi, à l'époque, je voyais suffisamment. Voilà. Donc pour moi, c'était pas un frein. Quand je suis arrivée sur Rennes, pas au début, mais au début des années 2000, la vue a commencé à, on va se dire, à se déglinguer, que je me suis rapprochée des associations, et que j'ai commencé à travailler sur l'accessibilité à la culture. Et je me souviens toujours d'une personne, quand l'opéra, ça commençait tout début des opéras en audiodescription, donc j'avais contacté l'opéra de Rennes, qui était partant. Et il y avait une personne déficiente visuelle qui me dit « Non, mais c'est pas pour moi l'opéra, c'est pas pour moi. Hein. » Je dis « Écoute, tu viens voir, t'as le droit de pas aimer. Hein. » Je dis « Chacun ses goûts, t'as le droit de pas aimer. » Depuis, elle ne rate jamais un spectacle en audiodescription.
C'est ici que s'achève notre deuxième épisode de notre série de reportages consacrée à l'accessibilité à la vie culturelle rennaise. Le troisième et dernier épisode s'intitulera « Combattre l'exclusion » et portera sur les initiatives qui tentent de remédier à l'exclusion de certains publics. À bientôt sur Canal B.